de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques en compagnie aujourd'hui de Romain Ozoui. Romain, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous.
Et bienvenue dans votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Effectivement, on est ensemble pendant 20 minutes au sommaire. Il y a un an, jour pour jour, naissait en Haïti ce qui allait devenir l'un des plus grands mouvements citoyens de lutte contre la corruption, le Petro-Caribe Challenge, mouvement en réaction au scandale d'un programme d'aide où l'argent semble s'être évaporé. On va faire le point sur cette mobilisation un an après avec la correspondance de RFI en Haïti. Et puis, dans la revue de presse de Stéphanie Schuller, qui est déjà à nos côtés en studio, on va parler de l'insécurité en Haïti avec notamment un commerce juteux des munitions. Comment les Argentins réagissent-ils à la débâcle du président Mauricio Macri lors des primaires dimanche? Nous leur avons donné la parole, ils réclament, vous le verrez, le changement. Reportage à suivre. Et puis Cuba, qui s'attend à une baisse de 10% du nombre de touristes cette année, conséquence des sanctions américaines. Ce sera le dossier Amérique du jour.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Alors, à l'origine, il y a eu un hashtag Petro-Caribe Challenge publié sur les réseaux sociaux. Jour pour jour, c'était il y a un an. Gilbert Mirambeau, le jeune réalisateur haïtien, postait une photo sur Twitter en posant cette question. Où est l'argent Petro-Caribe? Question devenue un an après le symbole d'un vaste mouvement citoyen de lutte contre la corruption. On en parle avec la correspondante de RFI à Port-au-Prince, Amélie Baron. D'abord, Amélie, les explications sur l'ampleur de ce phénomène.
Le Petro-Caribe Challenge s'est diffusé à vitesse grand V sur la toile haïtienne durant l'été dernier, car la publication originale a non seulement été partagée, mais surtout la consigne de ce défi a été relevée par des stars nationales comme le rappeur Calibre. Bien plus simple que de se filmer, par exemple en train de recevoir un seau d'eau glacée, les besoins du Petro-Caribe Challenge se résumaient à un carton, un crayon et une question « Où est l'argent ?». Cette interrogation a fait mouche auprès de cette génération de trentenaires haïtiens qui vont rapidement être identifiés sous l'étiquette de Petro Challenger. Beaucoup d'entre eux ont voyagé ou étudié à l'étranger. Ils ne rêvent pas d'immigration, mais veulent vivre dans leur pays. Et c'est parce qu'ils ont pu observer ou se retrouver confrontés à la corruption et ses conséquences qu'est née leur envie de justice, une justice impartiale, aux yeux bandés, comme sur les photos donc du Petro-Caribe Challenge. Cette revendication a immédiatement résonné auprès de la majorité des Haïtiens qui sont fatigués et même en colère de vivre dans des conditions difficiles, sans service public, à cause justement de cette corruption.
Alors Amélie, on va rappeler l'origine du scandale Petro-Caribe, le nom donc du programme d'aide que le Venezuela a accordé en 2008 à plusieurs pays de la Caraïbe, dont Haïti, mais en 10 ans, l'argent prêté, on parle de plus de 2 milliards de dollars américains, cet argent a été dépensé sans que l'on sache vraiment comment. Et on peut dire aujourd'hui, Amélie, que le Petro-Caribe Challenge a mis un terme à cette opacité.
Effectivement, après les pancartes pour demander où était passé l'argent, le challenge a pris la forme d'un début d'audit public. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont commencé à partager des photos de projets qui, près de chez eux, auraient été financés par les fonds Petro-Caribe. Sont alors apparus des clichés de stades en piteux état, de ponts ou de marchés inachevés, le tout accompagné de commentaires félicitant, non sans ironie, les autorités d'avoir dépensé tant de millions pour un tel résultat. Finalement, à l'automne, le mouvement est sorti du virtuel en prenant la forme de sitting et de marche. Les Petro-Caribe Challengers ont interpellé la Cour supérieure des comptes en manifestant devant les locaux de l'institution à Port-au-Prince, puis à travers les principales villes du pays. La mobilisation a payé puisque l'administration a finalement publié deux rapports d'audit, l'un en janvier puis l'autre en mai. Les conclusions n'ont malheureusement surpris personne. Les juges détaillent combien les millions de dollars du fonds Petro-Caribe ont été au mieux mal gérés, au pire détournés par des ministères et des administrations peu scrupuleuses. Le tout aux dépens du peuple haïtien qui aurait dû bénéficier de cet argent, mais qui s'est enfoncé dans la pauvreté.
Dernière question à Amélie. Aujourd'hui, quelle est la situation? Le procès Petro-Caribe, qui est tant demandé, ne semble pas être pour demain.
Le juge d'instruction en charge du dossier a eu beau convoquer des anciens ministres épinglés dans les rapports de la Cour des comptes, la procédure judiciaire n'avance pas, car ces invitations du mois dernier ont été boudées, notamment par les deux anciens premiers ministres, Jean-Max Bellerive et Laurent Lamothe. La question Petro-Caribe est aussi devenue une arme politique pour l'opposition à Jovenel Moïse, car une entreprise que dirigeait l'actuel président de la République est épinglée dans le second rapport de la Cour des comptes, comme ayant été au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Il y a eu beaucoup de manifestations et de prises de position appelant à sa démission afin qu'il se mette à la disposition de la justice. Mais pour aussi cruciale qu'elle soit, cette crise politique actuelle occulte les revendications premières du Petro-Caribe Challenge qui était, rappelons-le, une reddition totale des comptes sur les 10 dernières années. Et partant de là, pour l'avenir, une gestion saine et transparente de tous les fonds publics.
Amélie Baron, correspondante de RFI à Port-au-Prince, merci à vous. On continue de parler d'Haïti à présent avec la revue de presse. Bonjour Stéphanie Schiller.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Alors dans la presse haïtienne, ce n'est pas la lutte anti-corruption qui fait la une, mais le problème croissant de l'insécurité.
Ouais, le Nouvelliste titre aujourd'hui, le commerce juteux des munitions dans le pays est géré par 11 personnes. C'est ce qu'en affirme Jean-Rebel d'Orsena, membre de la CNDDR, la Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement et Réinsertion. Des cartouches pénètrent le territoire haïtien en quantité, sans aucun contrôle réel, explique-t-il dans les colonnes du journal. C'est un marché qui rapporte, insiste Jean-Rebel d'Orsena, et ce marché est tenu par 11 personnalités, parmi elles des individus du secteur privé, mais aussi des leaders politiques et des proches du pouvoir. Sans les nommer, le membre de la Commission nationale de désarmement souligne que ces personnes travaillent en connivence avec des bandes armées en leur fournissant les munitions.
Jean-Rebel d'Orsena qui parle aussi d'obstacles, des obstacles au travail de la commission à laquelle il appartient.
Oui, la CNDDR a été créée il y a 5 mois par le président Jovenel Moïse, rappelle le Nouvelliste. Elle a pour mission de désarmer et de démanteler des groupes armés pour ensuite assurer leur réinsertion dans la société haïtienne. Mais, selon Jean-Rebel d'Orsena, elle n'a aucun moyen pour fonctionner et il conclut, à l'adresse de la justice, qu'elle fasse son travail.
Oui, parce que pendant ce temps-là, l'insécurité s'aggrave en Haïti et notamment dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince, la capitale.
De telle façon que la capitale haïtienne est désormais confrontée à de nouveaux campements qui apparaissent dans l'espace public. À l'instar de la place d'Italie, rapporte Aibo Post, où des dizaines de familles du quartier La Saline se sont réfugiées depuis novembre 2018 déjà. Les massacres qui ont eu lieu dans cette zone et les affrontements répétés entre gangs rivaux pour le contrôle d'un marché les ont poussés à quitter leur maison.
Et dans les campements que vous évoquez, Stéphanie, on peut le dire, les conditions de vie sont plus que difficiles.
Oui, Aibo Post les qualifie même de conditions infra-humaines. Les victimes des violences des gangs ont fabriqué des logements de fortune pour se préparer à manger, se laver et parfois pour étancher leur soif. Les gens utilisent l'eau polluée provenant d'une source située à proximité. Poubelles et toilettes publiques font cruellement défaut, constate photo à l'appui le reporter d'Aibo Post. Avant de conclure, la mairie de Port-au-Prince n'accorde aucune attention à la place d'Italie, pourtant située juste en face de ses locaux.
Allez, tout de suite, un autre sujet, direction le Mexique, Stéphanie. Au Mexique, où pour la première fois, une ancienne ministre a été placée en détention préventive pour détournement de fonds publics.
Oui, Rosario Robles était sous l'ex-président Enrique Peña Nieto, ministre du Développement Social. Elle est accusée par la justice de ne pas avoir dénoncé le détournement de plus de 300 millions de dollars, détournement dont elle avait pourtant connaissance selon les juges. En attente de son procès, elle a été placée derrière les barreaux pour au moins 2 mois, rapporte El Economista. De son côté, Rosario Robles rejette les accusations et explique qu'elle avait alerté sa hiérarchie de ces malversations, y compris le président Peña Nieto lui-même. Dans le quotidien Araqueña, elle se dit victime d'une persécution politique de la part du président de gauche, Andrés Manuel López Obrador.
Stéphanie Schuller, vous restez avec nous dans un instant la suite de votre revue de presse. On va notamment évoquer le Brésil. Mais d'abord, puisqu'on parlait à l'instant d'économie, on va partir en Argentine où les marchés restent très nerveux 3 jours maintenant après la victoire aux primaires d'Alberto Fernandez. Le retour du péronisme lors de la prochaine présidentielle en octobre en Argentine qui fait craindre le retour de la crise économique dans le pays. Hier ainsi, le peso, la monnaie locale, a à nouveau baissé, perdant plus d'1,7% par rapport au dollar. Cela a obligé la banque centrale argentine à intervenir. Les marchés sont inquiets, la population, vous allez le voir, bien moins fatiguée de la politique d'austérité du président Mauricio Macri. Elle demande tout simplement le changement. Reportage à Buenos Aires, Aude-Vivier Moriamé.
Dans les rues d'Almagro, petit quartier de classe moyenne à Buenos Aires, Eva Luna presse le pas. Cette employée domestique a terminé sa journée et rentre enfin chez elle.
J'étais contente quand j'ai appris les résultats dimanche. J'attendais ça avec impatience. Ça fait 4 ans qu'on vit mal. Moi, je travaille à l'heure, je ne gagne pas assez d'argent pour survivre.
Même constat pour Camilla Ganderheide. Cette étudiante de 22 ans a vu son quotidien très affecté par la crise économique qui touche l'Argentine et par les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement Macri pour y répondre.
J'ai dû réduire mes dépenses en nourriture, en photocopie pour l'université, en transport. J'ai dû déménager pour vivre plus près de l'université. Et j'espère que ces résultats se répéteront en octobre et que Macri quittera le pouvoir.
Lundi, le président Mauricio Macri a insinué que l'effondrement de la bourse et du peso argentin était une sanction au vote massif des Argentins pour son rival, moins apprécié que lui des marchés financiers. Un argument de mauvais perdant pour Carlos Novo, gardien d'immeuble, qui refuse de voter pour satisfaire les marchés.
Il y a un mécontentement et les gens l'ont exprimé dans les urnes. Grâce à Dieu, nous vivons en démocratie depuis 1983. Les gens votent de manière démocratique et il faut le respecter.
Mardi, sur Twitter, le mot dièse « Macri prend tes responsabilités » était le plus utilisé sur le réseau social en Argentine. Audevillier-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
De l'Argentine au Brésil, la suite de votre revue de presse, Stéphanie Schuller, au Brésil, où la réforme du système d'éducation prévue par le gouvernement du président Jair Bolsonaro, cette réforme est vivement contestée. Hier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers tout le pays.
Oui, la Folha de São Paulo a comptabilisé 900 000 participants aux manifestations qui ont eu lieu dans 204 villes à travers le pays. C'est déjà la troisième fois que les mouvements étudiants, les syndicats d'enseignants et les partis d'opposition appellent à une telle mobilisation. Et ce mardi, des élèves du secondaire se sont également joints aux protestataires, constate le quotidien.
Et cette mobilisation veut dire quelque chose, hein, Stéphanie. Pour de nombreux Brésiliens, l'éducation est menacée avec l'ère Bolsonaro.
Coupes budgétaires pour les universités fédérales, suppression de bourses d'études, réécriture des manuels d'histoire. L'éducation est devenue une bataille culturelle et idéologique sous le gouvernement d'extrême droite, selon O Globo. Les manifestants dénonçaient un nouveau projet gouvernemental qui vise, selon eux, à privatiser l'enseignement supérieur du Brésil. Et l'ancien ministre du Travail du Parti des Travailleurs, Luis Marinho, déclare dans les colonnes de la Folha « Nous ne faisons pas face à un gouvernement qui pense différemment de nous, mais à un gouvernement qui veut instaurer une dictature. »
Stéphanie Schuller qui vous présentait aujourd'hui la revue de presse d'Haïti et des Amériques. C'est la période estivale des vacances dans de nombreux pays dans le monde. Période en général qui est lucrative pour Cuba, où le tourisme représente la deuxième activité économique. Mais cette année, la réalité est tout autre. Et notamment en raison d'une décision prise au mois de juin par Donald Trump, le président américain. Décision d'interdire les croisières vers Cuba. Conséquence, une baisse de 10% des touristes prévus cette année. Le tourisme cubain mis à mal par les sanctions américaines. C'est un reportage de notre correspondante à La Havane, Domitille Piron.
Dans les rues de la vieille Havane, Lisette Pérez Acosta déambule dans son costume d'époque coloniale et vend des cacahuètes à la criée. Depuis le 5 juin dernier, la décision américaine de suspendre les bateaux de croisière sur l'île affecte durement son activité.
Je vends beaucoup moins, pas moins, beaucoup moins. Avant, je vendais 40 paquets de cacahuètes par jour et maintenant, j'en vends 15 et le travail me coûte.
Cuba a reçu près de 5 millions de visiteurs étrangers en 2018 et faute de touristes américains, le gouvernement a revu à la baisse de 15% ses prévisions de fréquentation touristique sur l'île cette année. Une inquiétude pour Yoldani Fernandez Abasto, taxi dans une vieille américaine décapotable.
Oui, c'est taxi, taxi, taxi.
Tu dis taxi, taxi, taxi et personne n'y fait attention. Alors qu'avec les Américains, je disais à peine taxi, ils montaient déjà dans la voiture. Les Américains, ce sont les touristes qui dépensent plus. Ils veulent tout faire, tout voir, tout acheter. À chaque croisière, il y avait 4000, puis 3000, puis 2000 touristes qui débarquaient en même temps. Donc, on ressent vraiment cette baisse du tourisme.
Dans le restaurant San Cristobal de la vieille Havane, les anciennes réclames Coca-Cola côtoient les plantes tropicales et décorations typiquement cubaines. En mars 2016, Carlos Cristobal Marquez avait obtenu une publicité inespérée en accueillant Barack Obama pour un dîner lors de sa visite historique sur l'île. Depuis l'annonce des nouvelles sanctions, le gérant a vu son chiffre d'affaires diminuer de 20%, mais ne s'inquiète pas pour autant.
L'agence cubaine de voyage devra définir de nouveaux objectifs et se tourner vers d'autres types de tourisme. C'est ce que nous devons faire, promouvoir Cuba pour un tourisme écologique, naturel, culturel, pour attirer d'autres touristes. Et je pense qu'on va y arriver.
Les récentes mesures de Donald Trump ont pour objectif d'éloigner le dollar américain de Cuba. Le locataire de la Maison Blanche a ainsi supprimé la catégorie de voyage appelée « People to People » qui permettait aux Nord-Américains de voyager sur l'île sans dépenser dans le secteur touristique étatique. Les plus touchés par ces mesures sont donc les cuenta propista, travailleurs indépendants comme Alexander Guerra qui cherche désespérément à attirer des touristes pour une visite de la ville en calèche.
Imaginez si ce monsieur est réélu pour 4 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce président, Donald Trump, ne pense qu'à la politique, mais au peuple, qui y pense? Parce qu'à la fin, c'est le peuple qui paie les conséquences, pas les politiques. Les politiques vivent de la politique. Et nous alors?
Mais les travailleurs indépendants du tourisme ne baissent pas les bras pour autant. Adis Pereira diversifie son activité. En plus de sa maison d'hôte, elle propose des ateliers de cuisine et cocktails aux touristes. À ciel ouvert sur son toit terrasse, en plein cœur de la vieille Havane, elle reçoit majoritairement des Américains.
Nous nous sommes organisés. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Nous, les entrepreneurs, nous nous organisons pour faire des campagnes et dire aux Américains qu'il y a d'autres possibilités pour venir à Cuba. Tous les jours, je vois des informations sur ce qu'il est possible de faire et sur la réalité des voyages à Cuba. Il y a beaucoup de choses que nous devons diffuser pour que les touristes viennent.
Et il subsiste encore quelques aventuriers qui bravent les interdits, comme Edward Hills de Pennsylvanie. Il a transité par Mexico avant d'arriver à La Havane.
Ces personnes ont besoin de tout notre soutien. C'est pour le peuple que je suis là.
L'application du chapitre 3 de la loi Helms-Burton a déjà imposé des sanctions à des agences de voyage en ligne. Sur les sites internet des groupes Expedia, Hotel Beds et Cubasphere, il est désormais impossible de faire une réservation pour un voyage sur l'île caribéenne. Domitille Piron, La Havane, RFI.
De Cuba à la Guadeloupe dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Avec le journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Romain.
En Guadeloupe, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier pour apporter leur soutien aux grévistes du CHU.
Oui, une grève qui dure depuis plus de 2 semaines maintenant, et était également présent une délégation syndicale venue de la Martinique. Les personnels du CHU de Fort-de-France étaient d'ailleurs appelés, eux aussi, hier matin, à se rassembler devant les portes de l'hôpital pour apporter leur soutien à leurs collègues guadeloupéens, mais aussi rappeler leurs propres revendications, car l'état des lieux en Martinique ne serait guère meilleur, comme le précise le docteur Patrick René Corail, secrétaire général de l'association Sauver la Santé en Martinique, au micro de Fabienne Léonce.
Nos problématiques sont quasiment identiques à un incendie près, évidemment. Actuellement, nos attentes, elles sont majeures. Un établissement public hospitalier avec une médecine libérale dans laquelle on va avoir des départs importants à la retraite, un système hospitalier qui prend toutes les urgences à partir de 18h, ne peut pas continuer à fonctionner si les moyens ne lui sont pas donnés. Les moyens, c'est quoi? C'est avoir les équipements au top niveau, avoir du personnel lorsque nous avons des coups de feu, et nous voulons aussi, au quotidien, avoir les éléments de base.
Retour en Guadeloupe avec la réunion hier entre le préfet et les élus locaux à propos de la création du futur syndicat unique de l'eau. Une réunion où chacun a, semble-t-il, fait un pas vers l'autre, comme on dit, et d'où tout le monde est ressorti à peu près satisfait, à l'exception notable des usagers qui n'avaient pas été conviés et qui sont furieux. Ronan Poney.
D'un côté, l'État, qui est à la manœuvre pour constituer le syndicat unique de l'eau et qui considère donc que les élus présents représentent les citoyens consommateurs. Et de l'autre côté, les citoyens consommateurs qui considèrent que, vu la corruption qui a gangrené et gangrène toujours, semble-t-il, le système de l'eau en Guadeloupe, on ne peut pas faire confiance à ces EPCI et autres collectivités. C'est pour cela que le collectif de l'eau Gourbert veut que les consommateurs soient représentés dans la gestion et la direction de ce syndicat unique. En attendant, le non-paiement des factures est en hausse, les citoyens ne veulent pas donner d'argent à des assemblées qui, pensent-ils, les ont trompés. Actuellement, le pourcentage d'impayés est de 37%. En métropole, il est de 2%. Rosan Bassette pour le collectif de l'eau Gourbert.
Mais ça va continuer à augmenter, puisque vraisemblablement, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas comprendre qu'on ne peut pas faire sans les usagers. Et aujourd'hui, l'usager, il est échaudé. Il a déjà compris que l'argent qu'ils ont payé il y a quelque temps a servi à faire autre chose que de la réparation des tuyaux, et qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas encore remettre de l'argent dans un puits sans fond.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Romain. À demain.
À demain. Bon après-midi également à vous, Benoît Ferrand. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui touche déjà à sa fin. Merci à Nicolas Benita qui était aujourd'hui à la réalisation. Restez à l'écoute, évidemment, de la Radio Mondiale.